Merci surtout pour l'intervention que vous avez faite. Je voulais savoir, est-ce que dans un premier temps, s'il vous plaît, vous pourriez avoir l'approche étymologique du mot travail dans la langue arabe et dans le Coran? C'est comme vous avez eu l'occasion de donner au niveau latin, ce que vous connaissez aussi au niveau de la langue arabe. Ma deuxième question, c'est comment redonner du sens aujourd'hui à la notion du travail? Parce que comme vous l'avez dit, on a une conception assez négative du travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent du travail. Donc comment faire en sorte de redonner de la valeur, du sens, et cette lettre de noblesse un petit peu à comme vous l'avez dit, et donc ce sentiment d'utilité aux autres. Parce que je ne suis pas sûr qu'un ouvrier à la chaîne se sente véritablement utile dans la société. Donc comment faire justement pour recréer un petit peu cette ambiance-là? Donc je vous remercie.
Je
Du coup, on a eu dans les années 70-80, pendant les mouvements de grève générale en France, des représentants, on va dire, de patrons qui ont fait appel à des imams, justement, pour un petit peu calmer les ouvriers de confession musulmane, en leur expliquant que le fait d'être dans des mouvements de grève ou autre, c'était contraire aux principes islamiques. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet, s'il vous plaît? Parce qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans certaines visions, donc...
Alors, si vous permettez, je commence par la dernière question, comme ça on remonte à Roger Poil. Il est étonnant, et a fortiori dans un état laïque, même si c'est venu de la part des patrons et donc ceux qui sont motivés, de confessionnaliser des mouvements de grève ou toute autre situation. On a eu l'occasion ici même et ailleurs de revenir sur certaines choses qui ont secoué la vie de notre nation. Et parmi ces choses-là, c'était le mot situation est trop fort, mais en tout cas, ce qui a pu se passer dans les banlieues en 2005. Et figurez-vous, cette fois-ci, ce n'était pas les patrons, mais quelques hommes politiques sont allés demander tout particulièrement à l'Union des organisations islamiques de France, alors, ça s'appelle plus comme ça maintenant, d'aller dire à ces jeunes gens que ce n'est pas bien, islamiquement parlant, de s'insurger. C'est vrai que il n'y a aucune raison d'aller casser des voitures, casser des attributs, etc. D'ailleurs, que l'on soit croyant ou pas croyant, que l'on soit, c'est une question de bon sens, une question d'éducation, c'est une question de préserver les biens d'autrui, il ne faut pas attenter contre les biens d'autrui. Et j'ai envie de dire que, a fortiori, lorsqu'on se dit hommes et femmes de foi, croyants, entre juifs, chrétiens, musulmans, si je reste dans la famille monothéiste, là aussi, l'attention qu'on doit avoir pour la coexistence pacifique, elle est importante. Et après, du coup, les émeutes de 2005 ont été en tout cas confessionnalisées à la demande, cette fois-ci, que certains préfets, les préfets ne l'ont pas fait d'eux-mêmes, c'est venu directement depuis Sarkozy. Alors, ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est vrai aussi qu'au moment des grèves, et notamment en 1983, il y avait une longue grève à la régie de Renault, à l'île Seguin et ailleurs, il y avait deux approches. Il y avait une approche qui consiste à dire, vous vous rendez compte, à l'époque, on n'avait pas encore ethnicisé en parlant de musulmans, parce que maintenant, de nos jours, musulmans, c'est quasiment ethnique. J'ai l'air de charger notre cher Nicolas Sarkozy, alors ce n'est absolument pas le cas, mais c'est lui qui a dit, vous vous rendez compte, j'ai nommé un préfet musulman. Et il se trouve qu'en parlant, on lui dit, préfet n'était pas musulman. Il s'appelait Aïssa Dernouche. Et on lui a dit, ben non, il n'est pas musulman. On lui a dit, ah bon, mais ça se voit. Il y a une confusion entre le génotype, j'ai envie de dire, et la confession. Et il était d'ailleurs nommé dans le Jura et puis pour une seule raison, il n'est pas resté longtemps, etc. C'est le fameux Aït-Abernous. Il était bien quand il dirigeait l'école de commerce de Nantes. Et en plus, pour l'anecdote, il n'était pas le tout premier préfet dit musulman. Déjà, du temps du général de Gaulle, il y avait à supposer qu'il faille professionnaliser les titres, les fonctions de la République. Alors, il y a au moins Sadako Rabah, Hassan, Mustafa Hassan, et puis il y avait encore un troisième qui était connu, qui avait fait leur preuve, notamment en Alsace-Moselle et ailleurs. Bon. Donc, il y avait cette notion de demander aux imams de dire que le fait de ne pas travailler, de se retirer, n'était pas religieusement, canoniquement, coraniquement acceptable. Il y a ceux qui ont suivi les imams en question et d'autres qui ne les ont pas suivis. Et ça a donné lieu, donc au niveau du patronat, les deux approches. L'approche A, où on est par les imams, on a réussi à casser des mouvements de grève. Et l'autre qui est, mais de toute façon, on a affaire à des individus fanatiques, et ce sont ceux qui ont d'autres revendications que les revendications salariales. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de revendications communautaristes ou quelque chose de cette sorte. Deuxième point de votre question, de votre critique, c'est comment faire pour rendre la notion du travail plus acceptable, plus... Pardon, je ne me rappelle plus de la question.
Et comment la requalifier de manière suffisamment noble, suffisamment juste, pour remettre un petit peu sa lettre de noblesse.
Oui, voilà, pardon. Donc du coup... Il y a deux choses. Il y a la révolution numérique, la bulle d'Internet, la digitalisation des activités humaines, l'ubérisation de l'économie, ce à quoi nous assistons, qui font que beaucoup de travaux, et notamment des travaux manuels, se voient totalement métamorphosés. Et ça laisse déjà sur le bord de la route beaucoup d'êtres humains, hommes et femmes, et la situation est... Il se trouve que lorsqu'il y a des révolutions comme ça, des moments de rupture, comme on dit, bien, ça s'accompagne par une évolution dans le cadre du travail. Durant tout le 19e siècle, on parlait du travail comme étant de l'essence de l'homme et qu'il y avait beaucoup de métiers, celui de cocher pour les fiacres, et il se trouve que la taylorisation, la fordisation des voitures, des automobiles, fait en sorte qu'on n'avait plus besoin du fiacre et d'un tout les cochers se sont retrouvés. Mais vraiment au chômage, c'était une catastrophe. La découverte ou l'invention de Thomas Edison pour l'électricité a fait en sorte que ceux qui étaient dans les bougies, dans les cierges, dans tout ce marché, dans tout ce secteur, hormis quelques cierges pour les églises, le reste, on n'éclairait plus à la bougie, et ça a fait en sorte que des entreprises entières et toute une catégorie d'ouvriers qui se sont retrouvés comme ça au chômage, etc. Donc comment faire dans une période de digitalisation des activités humaines pour que les gens ne se retrouvent pas avec des moyens de subsistance et leur propre travail qui disparaît comme ça. C'est à mon avis une question fondamentale qui fait à la fois de l'accompagnement. Ça donnera lieu à autre chose. Il faut, comme on dit, toujours facile de dire, de la formation, de la réadaptation, etc. Comment faire aussi pour donner ces lettres de noblesse au travail, c'est peut-être aussi de voir dans ce qu'on appelle les conditions, les codes du travail, toutes ces approches à la fois sociales du travail, pour que la dignité humaine ne soit pas altérée, et qu'on sorte de l'exploitation de l'homme par l'homme, et notamment par la machine qui le broie. La mystique philosophe Simone Weil a fait un énorme travail là-dessus. Elle-même est allée dans les usines, sur les chaînes avec les usines, pour éprouver la condition du travailleur, et en prendre si nous avons une intention aussi. Toute la condition humaine, j'ai envie de parler depuis Zola jusqu'au milieu du siècle écoulé, vraiment il y avait une sorte de servitude et une aliénation par le travail. Bon, maintenant, dans les sciences humaines, on essaye de préparer, reprendre les choses autrement, et je pense que ça devient aussi au sein des familles, de considérer que le travail, à l'ère de la starisation du football, où on perd les notions, on a des jeunes gens, des garçons en effet, qui rêvent d'être une star du football, et ça ce n'est pas leur rendre service, parce que ce n'est pas, le talent n'est pas pour tout le monde, et puis il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus, si je puis dire. Et donc il vaut mieux préparer la jeunesse à pas endurer la peur, mais psychologiquement à ce que la dignité de l'homme, de l'être humain, pour les garçons et pour les filles, c'est de travailler, de donner un sens à leur vie, selon cette histoire de Hakidi, cette fois qui nous apprend en tant qu'instrument juif. Un rabbi, un maître qui demande à son disciple, bon, après tes cours, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que fais-tu dans la vie? Il lui dit, je suis boulanger. Il lui dit, je te demande pas de dire comment tu perds ton temps, comment tu fais-tu de ta vie. Il dit, ben, je donne à manger aux hommes. Il dit, ah, ça c'est utile, ça c'est bien. Donc présente-toi désormais avec l'idée que tu donnes à manger à tes semblables, et de dire je suis boulanger. Bon, il y a peut-être une leçon derrière, et cette notion d'être utile par son action, par son investissement dans la cité. Alors, première question, donc dernière dans cette porte-là. Je parle très peu de la langue arabe parce que je me dis que nos amis ici présents n'étant pas arabophones, je ne sais pas. Alors, j'ai deux racines, deux étymologies, enfin deux mots, il y a la même et il y a Shorn. Pour ce qui concerne le premier, Anamel, il y a une notion du travail au sens d'accomplir ou d'effectuer plus qu'une tâche. Et ça donnera lieu à la fois au travail salarié, ce n'est pas le travail peine, c'est le travail corvée, c'est le fait d'être. La langue arabe, quand on triture les mots, ça donnera plusieurs sens, c'était très très polyphonique. Mais là, c'est la notion je ne vais pas vous dire des bêtises, le mot arabe, c'est simplement le fait de ne pas être anil, suppôt de quelque chose, de ne pas être en connivence avec quelqu'un, mais d'être anil, c'est d'être tout simplement une sorte d'intermédiaire, de paramètre, de aidant à et de travailler. La année, c'est celui qui travaille. La année étant le travail. La chose, cette fois-ci, c'est plus le fait d'être occupé, l'occupation à parfois même à s'exténuer, à être occupé, à faire une tâche. Et Il y a une nuance entre les deux. Parfois, pour certains, les deux sont, sont confondus. Mais la notion d'être, d'être occupé, occupé à, et occupé à fonctionner, ou à faire fonctionner quelque chose. Et si vous avez d'autres idées à propos des étymologies, elles sont les bienvenues.
Je tiens d'abord à remercier Raleb pour cette conférence. Alors moi, je reviens un petit peu au Coran dont Raleb avait parlé, donc la spiritualité musulmane est basée sur le Coran. Et dans le Coran, il y a toujours une... Quand Dieu parle de la croyance, elle est toujours associée aux bonnes actions. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Le travail est toujours associé à la croyance. Ça veut dire que quand on dit on est croyant, quand on ne travaille pas, ça n'a pas de valeur en fait. Et les musulmans, quand ils lisent les versets, en fait, Raleb peut-être pourra nous éclairer sur cet aspect-là. Merci.
Tu l'as dit très bien. Il y a systématiquement une association entre croire en Dieu et faire œuvre tout, comme on dit, faire le bien. Ça ne suffit pas de croire en Dieu seul. C'est ceux qui ont cru et font le bien. Ou ceux qui ont cru et font les bonnes œuvres. Ceux qui croient en Dieu et œuvrent pour le bien et qui travaillent. Donc, ces notions, ce couplage entre croire en Dieu, donc être un homme ou une femme de foi, n'a pas de sens seul si ce n'est pas suivi, j'ai même envie de dire, être assujetti au fait de le réaliser d'une manière concrète par des actes. De travail, de bienfaisance, du bel agir, comme on dit, etc. Planter un arbre à un âge avancé, où l'on sait que soi-même, on ne va pas le pouvoir le voir grandir et cueillir ses fruits, est une œuvre aussi parce que ce n'est pas pour soi, mais c'est pour autrui. On plante un arbre, il y a un acte spirituel, il y a même un acte sacré au fait de tout temps, parce qu'on a les moyens, on a la possibilité, on a la validité physique de le faire, et bien de le planter, pas pour soi, parce qu'on peut manger d'un arbre qui est déjà bien mûr, il supporte l'eau, ses fruits, mais cette action-là, ce travail-là, est la conséquence de la foi en Dieu. C'est ce que nous dit, nous a à juste raison et heureusement nous a fait savoir par ce couple croire et faire le bien et travailler, œuvrer.
Poser la question du chômage et des conséquences, notamment envers les jeunes. Pourquoi travailler à l'école, puisque de toute façon, on n'aura pas de travail. Donc, il y a quand même un gros problème là. Et puis, je pense aussi, on constate souvent que... Les jeunes filles de tradition musulmane réussissent mieux à l'école que les garçons. Donc là, il n'y a peut-être pas que... Il y a d'autres critères. Alors je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce qu'elles sont habituées à aider leur mère très jeune. Ça change peut-être la notion de travail alors que les garçons sont leur père n'aura peut-être pas surtout si le père est au chômage, on leur a peut-être pas appris suffisamment à travailler. Enfin voilà, il y a des questions de cet ordre-là. Si vous pouviez donner des clés d'interprétation.
Bon. Alors parmi tous les mots, je suis très sûr que ce soit parce que ce sont des jeunes filles de tradition islamique. Parce que je suis pas sûr que les musulmans de Bosnie, qui sont musulmans, agissent comme ça. Ce serait peut-être dessous maghrébine ou nord-africaine. Oui, donc c'est plus dû au poids de la tradition plus culturelle que proprement confessionnelle et religieuse. C'est ce que je veux dire. Mais il se trouve qu'il y a la conjonction des deux aussi. Mais c'est bien que les jeunes demoiselles musulmanes réussissent à l'école. Je dirais pas mieux, mais au moins qu'elles réussissent. Parce que nous vivons à une époque où la vie est difficile pour tout le monde et elle est davantage pour ceux et celles qui n'ont pas de diplôme. Donc privilégier les cursus diplômants, aller jusqu'au bout, réussir à l'école, avoir ce qu'on appelle les codes de la vie dans notre société française, essayer de faire en sorte de déverrouiller les déterminismes sociaux, c'est quelque chose d'important, bien entendu. Les garçons, pardon, à mon titre, à mon niveau, pas, je ne dis pas pour vous, je ne sais pas, je ne veux pas faire une sorte de psychologie comme ça, ou psychosociologie, parce que ils auraient vu leur père. Effectivement, l'absence de repères, l'absence du père, les carences affectives, les ruptures relationnelles, le fléau du chômage de deux à trois générations comme ça qui se suivent, occasionne des dégâts dans les familles et dans ce qu'on appelle les cités. C'est vrai, ça c'est une réalité. Est-ce que parce que les filles aident leur maman, c'est pour ça qu'elles travaillent davantage à l'école? Je ne sais pas. C'est peut-être aussi une explication, ce qui les rend doublement courageuses et méritantes, puisque le temps où elles aident leur mère, elles auraient dû le passer soit à réviser, soit à faire leurs devoirs, soit simplement à se reposer, à se recréer. Les récréations, au sens premier du terme, sont faites pour respirer un peu. À mon avis, on est dans une strate d'explication dite sociale, voire sociologisante, qui est, on a des, je n'aime pas beaucoup ce type de vocabulaire, les cités, les quartiers, les zones sensibles, etc., qui pâtissent de beaucoup de mots à Maïs, dont le premier est celui effectivement du chômage. Mais vous avez d'autres mots, qui sont les mots de la drogue, les mots de la violence, les mots de la non-considération, et certains, y compris parmi les jeunes gens, ont trouvé dans un discours de type religieux de quoi les mobiliser, mais pas nécessairement pour faire le bien, dans le sens dit tout à l'heure par l'ennemi. Donc, à mon avis, et avec le temps, si on est dans une optique pessimiste, il n'y a aucune raison d'abdiquer et de baisser les bras, de laisser place, effectivement, et je le dirai toujours, à l'éducation, à l'instruction, à l'acquisition du savoir, à la connaissance, à l'ouverture sur le monde, au fait d'être sensible aux valeurs esthétiques, aux valeurs à l'éthique, enfin, tout ce travail d'éducation en famille, l'instruction à l'école, l'ouverture sur le monde, mais aussi sur le milieu environnant, d'aller dans les musées, d'aller à l'opéra, quand c'est possible, quand les moyens le permettent, aller au théâtre, être sensible aux belles-lettres, aux beaux-arts, ben, tout ça aide à sortir de l'ornière. Et d'un autre côté, puisque nous faisons nation commune, il faut que toutes les strates de la nation, toutes les composantes, toutes les franges se retrouvent dans cette nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous, pour qu'il n'y ait pas dedans des eux, des nous, des incompréhensions, etc. Si vous voulez, c'est une approche à la fois politique, au sens fort du terme, et aussi, ce sont des approches éducatives et des approches de régler les problèmes économiques quand ils se présentent, mais une volonté commune de sortir par le haut d'une situation de crise qui a assez duré. Voilà.
Deux questions, enfin, que je me pose en tout cas. La première, pour rebondir un peu sur la question du chômage, je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du chômage. Notre région, Bourgogne-Franche-Comté, est une des régions où il y a le plus de chômeurs en France. Peut-être la plus touchée par le chômage de France. Pourtant, à côté de chez nous, ici, Peugeot embauche, a ouvert 1500 postes et galère pour trouver les personnes qui vont travailler sur ces postes. Non ? Enfin, je vois Philippe qui fait un peu la moue, mais il y a 1500 et plus même.
Donc vous avez dit qu'il y a deux questions, j'attendais
la deuxième. Oui, la deuxième. J'habite à proximité d'une mosquée et le vendredi, en début d'après-midi, je vois sortir une foule d'hommes et de jeunes hommes de cette mosquée et je me dis, est-ce que vraiment le respect des 5 prières par jour est compatible avec un travail soutenu.
Alors commençons par la seconde question. La réponse est non. Ce n'est pas compatible. Quelqu'un qui est qui conduit un esprit, c'est son travail. Imagine, ça peut aller depuis le président de la République jusqu'à celui qui conduit le métro et dont mon esprit n'a pas une hiérarchisation, puisque la dignité de l'homme est aussi dans ce qu'il travaille. Simplement, on a des responsabilités, on a des fonctions, etc. Donc, être conducteur de métro n'est pas dépréciatif dans ma bouche. Vous imaginez qu'au moment de la prière dite du midi ou de l'après-midi, il va arrêter son métro, descendre sur le quai ou rester dans sa cabine, il sort son tapis de prière, faire sa prière et les gens sont en train d'attendre. Ça ne se passe pas comme ça. Va-t-il renoncer à son travail pour pouvoir prier tout le temps? C'est un choix à faire, mais à mon avis, ses enfants n'auront pas de quoi manger. Donc la question, c'est d'avoir une approche plutôt intelligente en ce qui concerne l'intelligence idée du cœur et de l'esprit, par rapport à ces questions de pratique. Quand il peut faire sa prière en temps voulu, etc., c'est très bien. Quand il ne peut pas, parce que son travail exige qu'il soit présent en ce temps de prière, il rattrapera le soir pour en faire. Alors, aussi étonnant que ça puisse l'être, le vendredi n'est pas un jour férié ou chaud, mais ce n'est pas le Shabbat des musulmans, ou le dimanche, même si ce n'est pas dans les mêmes notions des chrétiens. Il se trouve que la journée du vendredi, notre ami qui souhaite les étymologies, a un sens qui est le jour de la congrégation ou du rassemblement. Et parmi les 5 prières de la journée, celle du midi, celle du zénith, est un moment de prière communautaire, une prière dite de congrégation. Immédiatement après, il est dit, et vaquez à vos occupations quand vous aurez fini votre prière. Il n'est pas dit, rester à ne rien fiche, baisser les rideaux de vos magasins ou ne travailler pas, etc. C'est vrai qu'en Arabie du 7e siècle, on se retrouvait un vendredi dans une mosquée ou même ailleurs où toute la vie était organisée comme ça, ça permettait à l'imam de faire son double sermon, un premier d'ordre ou de facture temporelle, pour dire un peu ce qui s'est passé dans la semaine ou ce qui va se passer, lui donner une lecture plus morale, etc. Et puis le second sermon qui est de facture spirituelle. Et puis les gens se trouvent, ils s'adonnent la collade, ils se font la paix, ils s'embrassent et puis ils partent. Ça se passe comme ça et j'imagine que ça se passe, ça se passe comme ça lors de l'office chrétien, que ce soit protestant, catholique ou même orthodoxe. La messe, ça se passe comme ça aussi dans la synagogue, etc. Bon, ce sont des prières type communautaire. À mon avis aussi, un chirurgien dans son bloc opératoire, il a opéré un patient, une patiente, et que cette opération prendra quelques heures, voire plusieurs heures. Dans son planning, il commence un vendredi matin vers 10h, 10h30. Il ne va pas laisser son patient comme ça sur le billard, comme on dit, pour aller courir à la première mosquée qui se trouve pas loin ou plus loin, accomplir sa prière dite communautaire. Et on pourra toujours m'objecter, mais il pourra s'arranger pour avoir son vendredi. Et il se trouve que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le pense. Et à mon avis, mais moi je peux le tromper, il vaut mieux faire de l'acte qu'on est en train d'accomplir, soigner un malade, conduire des gens, veiller au bien de la nation, être dans sa préfecture, être dans sa classe devant ses étudiants ou devant ses élèves, s'adresser à son auditorium, surtout si on n'a pas une profession libérale, qu'au contraire, profession libérale, on fait ce qu'on veut, et encore. Eh bien, là, le primat est à accomplir, effectuer ce pourquoi on est aussi salarié. C'est une sorte de réflexion. S'il n'y a pas d'accord avec l'employeur pour lui donner son vendredi, ou si c'est difficile, eh bien, quel est le choix? Bien, j'ai entendu quelques musulmans, heureusement rares, eh bien moi, ben, je ne travaille pas. Je n'ai pas mon vendredi, parce que c'est important, la prière du vendredi étant importante. Dans une période de chômage, de difficultés, etc., il y a eu des cas, hélas, même au Canada, et ici, des cas, j'ose espérer que ce sont des cas rares, de gens qui ont renoncé à avoir un travail sur la semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du vendredi pour aller accomplir la dite prière communautaire. Les autres, et il m'arrive de connaître beaucoup de musulmans, qui sont pris, tenus par leurs engagements de travail. C'est un engagement moral vis-à-vis de l'employeur. C'est aussi un engagement pour leur propre famille, pour leur propre foyer, pour eux-mêmes. Et puis, ils rattraperont leurs prières quand ils sont des priants assidus et quand ils sont dans la stricte observance. Alors, le premier cas, vous avez raison, enfin, première question. J'ai suivi, mais les chiffres sont des êtres fragiles qui disent n'importe quoi sur la torture, comme on dit. J'ai suivi à la télévision un économiste dire bon, on s'attend à une croissance de 1,6 à 1,8%, une croissance de 1,8 points pour cette année dans toute la France, mais les régions sont disparates. Et j'ai vu que cette région-là, c'est celle qui a le taux le plus bas, c'est moins 6,9 ou moins 5,8. Bon, ça montre qu'il y a une situation difficile. Et donc, comme vous dites si bien, il y a une situation sociale, une situation même de détresse. et à côté, vous m'informez que le Peugeot n'arrive pas à embaucher. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'adéquation entre la demande et l'offre? Est-ce qu'on a affaire à des fainéants paresseux qui n'ont pas envie d'aller travailler? Est-ce, comme certains le pensent ou le disent, est-ce qu'il y a un problème de formation? Est-ce qu'il y a... je suis incapable de vous le dire, notamment pour la région d'ici.
D'autres questions?
Pour l'accès qualitatif du travail de la région, comment aller ça?
Merci de m'avoir
Oui, c'était pour l'aspect qualitatif du travail, comment la religion.
Dans l'enseignement prophétique, cette parole, c'est une limite, celui qui a fait un travail et qui l'a fait d'une manière excellente. Il l'a poussé à la perfection, en réalité. Votre ami est parti, sinon je lui aurais dit en arabe, Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. La notion, c'est que Dieu bénisse, parce qu'il y a une notion de bénédiction, quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a fait quelque chose sous la meilleure forme qui soit, ou sous le meilleur résultat qu'on puisse faire. Donc il y a une sorte de conscience de celui qui travaille ou qui fait, il ne va pas s'arrêter à un travail bâclé. Donc, sinon ça ne sert à rien. Ce n'est pas le pis-aller. Donc il y a la conscience, il faut que le travailleur soit consciencieux pour pousser le plus à la perfection ce qu'il est en train de faire. Bon. À l'impossible, nul n'est tenu, mais chacun va dans son champ de compétences jusqu'à la limite supérieure de son champ de compétences et de ce qu'il est capable de faire. Et par là même, il y a un sentiment de plaisir, de contentement, de satisfaction d'avoir réussi ce travail-là. Et ça occupe l'esprit, ça... Tout à l'heure, j'ai parlé de cet ennui, l'ennui ravageur de l'âme, qu'on appelle l'ascésie. Eh bien, un travail bien fait immunise ou prémunit contre l'ennui de l'âme.
Dans notre société, où l'important dans le travail, c'est d'avoir de l'argent, comment toutes ces notions et toutes ces valeurs que vous donnez au travail peuvent avoir un attrait pour les jeunes pour qui l'important c'est d'avoir de l'argent et que quelqu'un devient c'est celui qui a la belle voiture, qui a la belle... voilà. Donc on est dans un système où c'est pas évident de trouver, de vraiment mettre en avant cette valeur du travail bien fait, cette valeur de travail qui est pour le... pour la communauté, pour aujourd'hui,
essentiellement,
c'est de faire de l'argent.
Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a deux choses. Il y a le travail dit salarié, et parfois on se tue au travail. Je pense à cette japonaise de la chaîne NHK, qui ayant accumulé 159 heures supplémentaires sur le mois, ben, elle est morte sur le lieu du travail. De ne pas aller à cet excès. Donc, j'y ai pensé simplement lorsqu'on se tue à travailler pour gagner plus d'argent pour les dépenser dans les loisirs ou les fameux SER, les signes extérieurs de richesse. Parce que la valeur de l'homme, l'importance de l'individu est dans ce qu'il fait. Miroiter, montrer sa richesse, montrer sa réussite. Je pense que là, il y a des valeurs sur lesquelles il y a lieu de travailler, à la fois en famille et dans les traditions religieuses, comme je dis souvent, sous le la lutte commune de la laïcité que nos sociétés peuvent pousser à la dépravation, peuvent pousser à ne pas voir où est l'essentiel de l'homme. Donc ça, c'est déjà un point. Il y a l'autre point, je suis même mal placé pour en parler parce que ici, je peux le dire sans trop de risques, j'étais à Marseille, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, je suis supporter du PSG, bien avant l'ère Qatarie. Donc quand je vois le football, etc., parce que votre serviteur était gardien de but, la religion nouvelle qu'est le football maintenant, ben, ça m'a pris, je vais voir les matchs de football, soit à la maison, soit ailleurs, parce que j'aime bien voir ce que font les gardiens de but, étant moi-même, du temps je pouvais plonger, arrêter la balle, est-ce qu'ils font bien, j'allais dire, leur travail ou pas. J'ai constaté, au fur et à mesure que le temps s'écoule, ces valeurs-là aussi du sport ont été totalement perverties. Et ça force la vision d'avenir que peuvent avoir nos jeunes gens. Parce que dans leur esprit, on a eu des tas d'histoires avec deux joueurs particulièrement cet été et un peu plus tard. La notion d'argent n'a plus aucune valeur. Eux-mêmes ne savent plus ce qu'ils font de ce qu'ils gagnent et ça devient indécent. Alors, on argumente toujours, que ce soit pour les joueurs de football ou les grands patrons, que les talents n'ont pas de prix. C'est comme ça. Est-ce qu'il faut s'accommoder à cet état de fait? Est-ce qu'il faut s'en garder, s'en prémunir? À mon avis, une éducation saine qu'on peut prodiguer à sa progéniture, à ses enfants en tout cas, c'est de leur dire que, attention, ce sont des choses qui relèvent, qui sont dans notre société, mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'homme. Et je trouve que c'est ça qui est le plus médiatisé. Donc, faut avoir des réflexes de lucidité, de discernement. J'ai envie même de dire presque de survie par rapport à ça. Ce sont des questions cruciales au sein de nos sociétés et notamment dans les sociétés occidentales. Alors, dans les Émirats du Golfe et autres, on est pollué aussi par cet état d'esprit. Ça y est. Ailleurs, en Afrique ou ailleurs, peut-être que ces notions de travail ont encore leur valeur, mais à l'ère de la mondialisation, est-ce qu'on n'est pas... est-ce que le nivellement n'est pas par le bas? J'en sais rien, les questions sont ouvertes. Et vous avez raison de poser la question sur ce point.
C'est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur la question suivante. Est-ce que l'islam peut être un moteur pour la lutte contre les injustices et les inégalités, ou bien si l'islam dit la religion c'est la religion, la société s'organise politiquement de son côté, etc. Ça nous regarde tout juste. Voilà.
Alors là aussi, j'ai perçu deux questions. Ah, la question. La question de notre ami Gérard, c'est est-ce que l'islam, parfois par boutade, je suis monsieur islamiste. Il y a des hommes et des femmes qui font parler l'islam, mais j'ai compris. Je le dis en plaisantant. Et on ne taquine que ce qu'on aime, dit le vieil adage. Bon. Est-ce que l'islam a, si j'ai bien compris, promeut, parle, a des valeurs pour plus de justice, et si j'ai bien compris, au sein de notre société, et même ailleurs, ou est-ce que, au sein, avec nos institutions, bon, la religion c'est la religion, puis l'organisation de la cité du point de vue politique, c'est ça, bon. Et bon, donc c'est pour ça que j'ai perçu deux aspects dans votre question avec le « ou ». Bien, moi qui suis ardent défenseur, parce qu'on l'a dit, on l'a écrit, ni défenseur, ni concession, mais je pense qu'il y a un bienfait à la laïcité, à la laïcité bien comprise. Voilà une épithète supplémentaire, laïcité comprise. Parce qu'on en a, le concept est devenu non autosuffisant qu'on éprouve le besoin de lui rajouter des adjectifs. Donc vous avez la laïcité ouverte, la laïcité positive, la laïcité complice, la laïcité tolérante, la laïcité bienveillante, ce qui sous-entend qu'il y a des antonymes, comme on dit, donc la laïcité fermée, la laïcité intolérante, la laïcité négative, la laïcité incomprise ou non comprise, la laïcité je sais pas quoi. Bon. C'est que on ne peut pas gouverner selon le désir politique de Dieu. Je viens, je dis, moi, j'ai compris ce que Dieu veut pour vous et pour la cité, et donc je vous l'impose. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas prétendre avoir scruté les volontés divines et vouloir l'imposer à autrui dans une société, surtout quand on nous dit qu'elle est plurielle, composite, etc. On ne peut pas se prévaloir de ses options métaphysiques, religieuses, de sa vision du monde. En allemand, j'aurais dit Weltanschauung, une vision du monde, pour l'imposer à autrui. Ça ne peut pas se faire comme ça. Imaginons un instant que je vienne vous dire, vous savez, il m'a été révélé hier que cette réunion ne doit pas avoir lieu. Au mieux, vous me souvenez. Au pire, ça devient un problème. Je ne peux pas me prévaloir de ma vision, de ma révélation, de ma compréhension. Et donc, dans l'espace public, avec les institutions, en ce qui nous concerne, républicaines, bien, il y a une sorte de déconnexion de la politique avec la religion. Donc l'organisation de la cité obéit au droit positif. La production du droit est une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien général des hommes. C'est paraître prévisable. Puisque là, je parle d'un côté de votre question. Et la fabrique donc de la loi, bah, se fait au Parlement. Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par des hommes, c'est le jeu de la démocratie, et la loi s'applique à tous, etc. Ce sont les fondements du droit, c'est la philosophie du droit, etc. En revanche, et à côté de ça, je ne pense pas que les églises, d'une manière générale, doivent se taire. Elles peuvent contribuer avec d'autres doctrine, d'autres philosophies, à enrichir le débat sur des, d'une manière civilisée, d'une manière éthique, ce qu'on appelle l'éthique du débat, pour dire que la vision de l'homme, la dignité humaine, l'humanisme, on a deux types d'humanisme, on a un humanisme théocentré, centré sur Dieu, et un humanisme anthropocentré, centré sur l'homme. Mais en tout cas, le résultat, c'est le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, de sa dignité, et en l'espèce, dans la tradition religieuse islamique, la notion de justice est fondamentale, d'ailleurs presque la raison d'être, des êtres humains et les détenteurs de l'ordre, c'est de faire en sorte qu'ils rendent la justice. n'y a pas plus grave que de s'accommoder de l'injustice. Parce que de là découle le chaos, finalement. Et je pense que les églises peuvent promouvoir un discours d'avoir adressé aux fidèles, dans leur sermon et dans leur prône, etc., tous les prêches, que ce soit du vendredi ou à la synagogue, voilà, ou à l'église, pour d'ailleurs être conforme aux références scripturaires, il y a pléthore, comment faire le bien, comment agir soi-même, agir d'abord pour soi, etc. Et s'il y a une possibilité pour des questions éthiques, pour des questions de respect de la vie humaine, de la dignité humaine, elles peuvent contribuer au débat, elles ne peuvent pas l'imposer, ça c'est clair. Je parle des églises, des traditions religieuses, et elles essayent d'enrichir le débat dans un seul souci qui est une sorte de quête, une conquête du bonheur dès ici-bas, et ceux qui croient au ciel et pour un au-delà annoncé comme meilleur et durable, essayeront de réussir leur passage ici-bas en se préparant dans l'au-delà. Voilà.
Il s'en passe, encore une question ?
Ah, ben, il n'y a pas de questions. Ouais, je remercie Khaled. Merci. Bravo.